l'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct de midi depuis Le Fou et rediffusée à 18h. Et dans cette 7e saison de l'EM, on vous fait entendre tous les jours les acteurs du Finistère. Et pour ma première saison, il fallait que je vous fasse entendre un métier qui résonne en vous, quelque chose qui sonne de façon singulière. Et vous l'aurez compris, on va parler d'un instrument de percussion idiophonique, ça veut dire que le son est produit par le corps même de l'instrument. Il est composé de métal, cet instrument creux et ouvert est encore suspendu à certains de nos édifices civils et religieux. Je veux bien sûr parler des cloches, et notre invité aujourd'hui les connaît bien, puisqu'il les étudie, les enregistre, il est campanographe. Mathieu Jules, bonjour.
Bonjour.
Vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce métier et comment on devient campanographe ?
Alors, en fait, l'activité de campanographe, c'est de monter dans les clochers et de répertorier, étudier les inscriptions des corps et prendre le diamètre de chacune des cloches qui s'y trouvent afin de faire connaître ce patrimoine sonore que beaucoup de gens entendent, mais qui est assez peu visible, souvent.
Alors, c'est votre passion ?
C'est une passion au départ et j'exerce cette activité à des fins professionnelles puisque je souhaiterais à terme devenir campaniste, c'est-à-dire c'est le métier qui consiste à entretenir le mécanisme des cloches, à faire en sorte à ce qu'elles soient toujours en état de sonner et de vibrer au cœur de nos villes et nos campagnes.
Alors voilà. Pour l'instant, tous les sons que vous récoltez, vous en faites quoi ?
Alors, tous les enregistrements que je récolte, en fait, je les publie sur une chaîne YouTube, je ne suis pas le seul à en avoir une, dédiée à l'art campanaire et religieux de Bretagne et d'ailleurs. Donc, en fait, ma chaîne YouTube porte mon nom et mon prénom, donc Mathieu Jules, c'est pas compliqué à trouver. Et voilà, je publie cela sur cette chaîne pour partager vraiment ce que je fais avec d'autres passionnés qui ont eux aussi une chaîne YouTube dédiée à l'art campanaire.
Alors, d'où ça vous vient, cette passion ?
Cette passion m'est arrivée, j'avais peut-être 6 ans. 6 ans, j'ai toujours été habité par la musique parce que ma grand-mère faisait du violoncelle. J'en fais également un peu et beaucoup de chant. Et à côté, lorsque j'allais à la messe avec ma grand-mère, j'entendais souvent le son des cloches à la volée et ça m'a tout de suite plu. Par le rythme, par ces harmoniques qui se dévoilent et cette diversité sonore d'un clocher à un autre. Et c'est de là qu'il y a eu un déclic et j'en suis depuis passionné.
Alors, vous faites partie d'une association ?
Oui, je fais partie d'une association qui s'intitule la Société Française de Campanologie. Alors, qu'est-ce que cette société ? C'est une association loi 1901 qui regroupe 130 membres passionnés, spécialistes, campanographes, campanologues et même certains campanistes et qui on a tous ce but commun de valoriser, faire connaître et sensibiliser à ce riche patrimoine sonore, en fait.
D'accord. Ah, donc c'est une association qui est nationale, c'est pas une association qui est exclusivement bretonne.
C'est une association qui est nationale. Hein. Il y a l'équivalent dans d'autres pays. Par exemple, en Italie, il y a la Fédération italienne de campanologie.
Alors, est-ce qu'un campanographe, campanologue étudie la totalité des cloches ou des instruments idiophoniques ?
Alors, en fait, le campanographe ou le campanologue, il étudie surtout la cloche, mais également ce qui s'y rapproche, parce que des cloches, on en a vraiment différents types. On a beaucoup de types différents de cloches. De l'Antiquité à nos jours, on n'a pas du tout l'instrument que nous voyons aujourd'hui majoritairement.
Alors, vous n'êtes pas venu tout seul, vous n'êtes pas venu non plus avec des cloches, parce que des cloches, il y en a des petites, puis il y en a aussi des très, 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 très grosses.
Oui.
Alors, vous êtes venu avec des sons, et du coup, ça tombe bien, on va pouvoir écouter tout ça. On va écouter donc le premier son qui est le son solennel de la cathédrale de Quimper.
Voilà. Thank you. Alors, ce que vous entendez ici, ce sont les deux bourdons de notre cathédrale Saint-Corentin de Quimper, dont le plus gros fut fondu en 1837 par Briens à Morlaix. Il fait 3 tonnes et il sonne le si bémol à la seconde octave. La seconde cloche que vous entendez à côté, c'est une cloche issue de la fonderie Bollé au Mans de 1880 et qui fait 2,2 tonnes et qui sonne le do naturel au troisième octave.
Alors, c'est des cloches qui sont grosses comment ? Parce que le son est quand même très très lourd, très très grave. On les imagine vraiment, vraiment énormes. Vous pouvez nous donner à peu près leur taille ou pas ?
Oui, tout à fait. Alors, ces cloches font 1,66 m de diamètre et 1,55 m de diamètre. Vous imaginez, ce sont des tailles assez conséquentes, hein ? Voilà. Et il faut savoir que ces cloches, comme beaucoup de cloches montées ainsi, exercent une force qui est égale à 3 fois leur poids sur le beffroi, c'est-à-dire la structure qui supporte ces cloches.
Alors, vous nous parlez un petit peu de structure de cloche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi est composée une cloche ? Alors, on imagine bien la structure même de la cloche, du métal en lui-même.
Alors, la cloche, en fait, est composée d'un alliage que l'on appelle l'airain et qui fait le bronze. Il est constitué à 78% de cuivre et 22% d'étain, en grande majorité parce qu'il peut y avoir des variantes d'une cloche d'une époque à une autre. Hein, mais majoritairement, c'est cela.
C'est presque le même alliage que pour les cymbales de batterie. On parle de bronze B8 ou B20. B20 correspond à 20% d'étain pour 80% de cuivre. Je ne sais pas si vous saviez ça.
Non. Mais voilà, c'est un alliage qui fait justement cette singularité sonore que possèdent les cloches.
Et on peut avoir d'autres alliages que le bronze, le cuivre, elle est.
Alors oui, on peut avoir d'autres alliages. Je peux vous citer un fondeur que j'ai un petit peu étudié, qui est Jacob Holzer, hein, fondeur du 19e siècle, né en Allemagne, et qui a conçu, lui, pour beaucoup d'églises allemandes, et même certaines en France, des cloches non pas en bronze, mais en acier. Et alors là, ça donne une toute autre sonorité. Je n'ai pas d'enregistrement disponible pour l'émission, mais c'est assez intriguant.
Alors, une cloche, en moyenne, c'est gros. Et c'est gros comment et ça pèse combien ?
Alors, des cloches, nous en avons de toutes les tailles, de tous les diamètres, de tous les profils. Par exemple, pour vous donner une idée, une cloche moyenne, on va dire 600 kilos, fait environ 1 mètre de diamètre.
D'accord. Alors, tout à l'heure, je vous avais posé la question, mais je n'ai pas été tout à fait clair. Dans la cloche en elle-même, il y a plusieurs parties. Je crois qu'il y a l'histoire, il y a la lèvre inférieure, je crois. Il y a plusieurs parties. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu toutes les différentes parties ?
Tout à fait. En fait, la cloche, c'est un petit peu comme un instrument. C'est un instrument de musique et on l'humanise parce que les cloches sont baptisées. Elles portent des noms et elles possèdent différentes parties. Donc, vous avez la couronne avec les anses qui servent à fixer la cloche à son joug. Vous avez le cerveau, la partie donc supérieure de la cloche. Ensuite vient la robe, vraiment toute la partie principale. Et la zone la plus épaisse, il y a la lèvre inférieure, mais on peut appeler ça la pince de frappe. Là où vient frapper le battant lorsqu'elle sonne à la volée en mode de balancer, ou le marteau teinteur qui est situé à l'extérieur et qui frappe les heures.
Il y a plusieurs sortes de battants. J'en ai vu en forme de, je sais pas, peut-être de goutte, il y en a avec carrément un espèce de poids au bout.
Alors oui, en fait, d'une cloche à une autre, il faut savoir qu'en France, on a différents modes de volée. Pour chaque mode de volée, le battant doit être adapté. Donc il est constitué d'un fût avec une boule pour frapper. Et souvent, on installe en extrémité une châsse pour équilibrer le battant et qu'il puisse correctement frapper la cloche.
D'accord. Est-ce que l'espace qui se trouve autour de la cloche a une importance ? Et même le bois qui la supporte ?
Alors oui, tout à fait. En fait, si vous voulez, les cloches sont souvent montées dans ce que l'on appelle des beffrois. Alors les beffrois, bien sûr, ce sont aussi des tours de guet, mais c'est également toute la structure porteuse des cloches, souvent faite de chaînes massives et qui est indépendante de la maçonnerie. Parce que les cloches exerçant plusieurs fois leur poids à la volée, il faut que ces charpentes puissent assurer ces forces et aussi éviter au clocher à la maçonnerie de s'ébranler.
D'accord. On va écouter un nouveau son. Et ben là, vous allez nous expliquer parce qu'il y a une grande signification derrière. Donc là, on a une succession de...
Trois fois trois coups.
Voilà.
Trois fois trois coups qui correspondent à une prière dédiée à la Vierge Marie qui est récitée trois fois par jour depuis le Moyen-Âge, voire plus loin. C'est ce que l'on appelle l'Angélus. Voilà. Qui retrace en fait ce que l'ange a annoncé à Marie lorsqu'elle allait enfanter, être mise enceinte de l'enfant Jésus par le Saint-Esprit. Et là, il y a la volée qui suit durant une minute.
Ça va arriver.
Donc voici la volée qui généralement est courte puisque c'est une petite prière que l'on récite trois fois par jour. La prière des anges également, d'où le nom Angélus qui fait écho à l'ange Gabriel qui annonça la future mise au monde de l'enfant Jésus par la Vierge. Et cette petite cloche est située non loin de Quimper, sur la commune de Plouguffan. Elle a été fondue par le fondeur Jean, un fondeur local, en 1862.
Il se trouvait où ce fondeur ?
À Quimper.
À Quimper.
Et il exerça fin 19e au 27 rue de Brest, selon les archives. Mais on a assez peu d'infos malheureusement sur ce fondeur.
Alors, comparé à tout à l'heure, là on entend vraiment un son, un seul son
oui.
qui tape de façon, on va dire, très claire. Le son qu'on avait entendu juste avant, on entendait plusieurs cloches et on avait l'impression que c'est... Alors moi, j'y connais rien du tout, hein, que c'est un petit peu brouillon. Est-ce que c'est vraiment brouillon ou il y a vraiment une partition qui est jouée ?
Alors en fait, souvent pour les fêtes solennelles, on sonne plusieurs cloches et même parfois des cloches en particulier, donc des grosses cloches. Et ici, l'Angélus, en fait, c'est une prière quotidienne et c'est souvent, comme c'est une petite prière, en fait, elle est sonnée sur une seule cloche en général dans les églises.
D'accord. Voilà. Et y a un Angélus du soir, il me semble.
Tout à fait. C'est récité trois fois par jour, souvent à 7h, midi et 19h.
Alors, est-ce qu'elle avait une utilité autre que religieuse, cette...
Oui, tout à fait. En fait, bien, il y avait la symbolique religieuse, bien sûr, parce qu'elle elle annonçait... en fait, elle guidait un peu les travailleurs et leur disait, lorsque c'était l'heure de se lever, d'arrêter de travailler pour aller manger, reprendre le travail, et ensuite signifier la fin de la journée à 19h.
D'accord. Voilà. Et ça datait de...
Et ça guidait, en fait, les paysans, par exemple, dans les champs.
Voilà. Moyen-Âge.
Voilà aussi, oui.
Au Moyen-Âge. Alors, on va revenir un petit peu sur les cloches. Est-ce qu'il y a plusieurs sortes de cloches ?
Alors oui, il existe plusieurs sortes de cloches. Vous avez en fait, je vais vous parler des timbres d'horloge qui ont une signification bien particulière qui est d'annoncer les heures. Alors, on en trouve notamment dans les hôtels de ville, des cloches civiles hein, qui n'ont pas de but religieux. Mais les églises aujourd'hui, bien sûr, teintent également les heures hein, pour guider les gens dans leur journée. Et au cas où, ça c'est assez ancien, un paysan ou un travailleur aurait oublié l'heure, il y a sur pas mal d'églises une répétition des heures 2 minutes après la première sonnerie des heures.
D'accord. Alors... Big Ben, c'était un petit peu arrêté le temps de la réfection des cloches. C'était arrêté pendant 5 ans. Et puis là, la semaine dernière, elle vient juste de revivre, on va dire ça
oui,
comme ça.
Oui, tout à fait.
Et donc, on a pu entendre quand même les Londoniens qui étaient quand même très contents de retrouver les cloches de Big Ben. Et on écoutera peut-être, si on a le temps tout à l'heure, la sonnerie horaire de l'église de Tours. Et je voulais savoir, est-ce que on parlait tout à l'heure des fabricants, est-ce qu'ils sont rares ?
Alors, les fabricants, en fait, sont assez peu nombreux aujourd'hui, mais ils réalisent un travail passionnant et souvent de grande qualité, un travail artisanal. On a des fondeurs de cloches, toujours aujourd'hui, notamment dans deux principales fonderies, que sont les fonderies Cornillavard à Villedieu-les-Poêles, qui est née en 1865, et la fonderie Paccard à Annecy, qui est née cette fois-ci par les frères Paccard vers le début du XVIIIe siècle.
Est-ce que c'est difficile de réparer une cloche ?
Alors, fondre une cloche, c'est pas facile parce que c'est des températures très précises, environ 1200 degrés, pour fondre le métal, le bronze et couler la cloche ensuite. Après, réparer une cloche, c'est autre chose. On a plusieurs sociétés qui procèdent à ce travail, puisque souvent, quand une cloche est fêlée, on peut faire un travail de soudure, hein, qui va compléter la partie manquante, ou lorsqu'une cloche n'est pas fissurée mais est usée d'un côté avec à force de sonner, on peut la tourner d'un quart de tour. Et on a des sociétés spécialisées dans ce type d'intervention.
Vous avez déjà assisté à une intervention comme ça ?
Alors, j'ai assisté à plusieurs chantiers campanaires, notamment pour changement de moteur ou restauration de cloches. Et c'est vraiment très, très intéressant à voir. Et généralement, vous m'aviez posé cette question, on est très souvent obligé de descendre la cloche de son beffroi.
Alors, on fait comment pour descendre une cloche qui fait plusieurs tonnes même?
Oui, alors en fait, on a aujourd'hui les systèmes de treuils électriques, voilà, et avec aussi des grues, des nacelles que l'on peut faire venir sur place pour les extraire, où on les descend lentement avec ce même treuil électrique parce qu'il y a des systèmes de trappe jusqu'en bas du clocher en général.
D'accord. On va écouter un troisième son, on va écouter une cloche dissonante qui est la cloche de Plenévé-Porzay.
Plenévé-Porzay. Alors là, ça rejoint justement deux types de sonneries. Vous avez la cloche dissonante, parce que qui est due notamment à des défauts des fois d'hygrométrie et d'un défaut de température, ce qui peut jouer sur les partiels sonores de la cloche, autrement dit ses harmoniques. Et là, vous entendez un autre type de sonnerie, puisque c'était lors d'une fête. C'est l'ensemble des cloches en plénum qui sonnent à la volée pour annoncer cette fête.
Ah, c'est quoi le plénum ?
Le plénum, ça signifie en latin « ensemble ». Donc, c'est l'ensemble des cloches qui sonnent à la volée. Voilà. À Plenévé-Porzay, pour ce cas ici.
Alors, vous évoquiez il y a quelques secondes l'impact de l'air, de l'humidité sur une cloche. L'impact peut aller jusqu'où ?
Mais les conditions météorologiques font que pour certains cas, on demande à limiter les sonneries, notamment par grande période de gel. Il peut y avoir des risques de fêlure ou bien sûr par la chaleur. Et autrement, on a eu un problème avec l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, oui, le 15 avril. Il y a deux cloches qui ont subi des chocs thermiques, en fait, entre la chaleur du feu et les lances à eau qui étaient froides. Et de ce fait, elles auraient eu apparemment des soucis au niveau sonore, je pense, ce qui fait qu'elles vont devoir être refondues pour deux à trois d'entre elles.
Alors, comment on fait pour refondre une cloche ?
Alors, pour refondre une cloche, en fait, souvent, on l'amène à la fonderie qui va se charger de la refondre, et souvent, on utilise quand même une partie du bronze ancien pour refondre la cloche, histoire peut-être symbolique pour mettre le patrimoine ancien dans la nouvelle cloche. Et ainsi, avec après du nouveau bronze, on refond une cloche souvent à l'identique, avec la même la même note, mais pas tout à fait le même timbre, hein, parce que ça dépend. On a eu des cas où l'on a fait refondre des cloches dissonantes et qui se sont métamorphosées en cloches tout à fait harmonieuses, quoi.
Est-ce qu'on a une différence d'érosion des cloches quand on est, par exemple, ici, là, en milieu marin, par rapport à des cloches qui se trouvent dans le Jura, dans les Vosges, par exemple?
Oui, tout à fait. Il peut y avoir un impact, alors pas vraiment, vraiment sur le bronze, mais le support de la cloche peut avoir un impact sur la cloche. Par exemple, on a certains ensembles conçus sur beffroi métallique et support joue métallique, et ça peut jouer sur la sonorité de la cloche.
Et je me posais la question tout à l'heure, puisqu'on parlait de mécanisme, de moteur pour faire osciller la cloche. Est-ce qu'il existe encore des gens qui sonnent en sautant la corde, en fait?
Alors oui, il en existe encore, et même quelques-uns en France, dans la plupart des départements, puisque même ici en Bretagne, on a beaucoup de chapelles, et dans les campagnes, il y a encore pas mal d'églises où les sonneries sont dites manuelles, c'est-à-dire que les cloches sont sonnées à l'aide d'une corde, voilà, et non pas d'un moteur de volée.
D'accord. Est-ce qu'on sait qui a inventé la cloche ?
Alors, qui a inventé la cloche? On n'a pas vraiment de nom, mais en tout cas, la cloche est réellement apparue dans l'Antiquité, puisque des gens ont inventé des objets à percussion qui ont un impact lorsqu'on les frappe entre eux. Mais c'est en Chine, vers 2200 avant notre ère, que la cloche fut inventée. Et on a des exemples encore de cloches chinoises, notamment de la dynastie Shang, qui sont exposées au public, notamment, je pense à une cloche de type bow qui est exposée au musée des arts asiatiques de Nice et qui a une forme vraiment bien particulière.
Ça ressemble à quoi ?
C'est un peu comme les gros gongs, les grandes cloches chinoises que l'on a et que l'on frappe. Et ça a une sonorité très, très particulière.
Ouais. Est-ce qu'il existe des cloches qui sont classées ?
Alors oui, tout à fait. On a un grand nombre de cloches classées au titre des monuments historiques, tout simplement parce que la Révolution a quand même, malgré les dégâts qu'elle a pu faire, c'est pas la Révolution, mais on a réussi à préserver pas mal de cloches datant de l'Ancien Régime. Et beaucoup d'entre elles sont classées au titre des monuments historiques parce que ce sont des cloches ayant un double intérêt patrimonial au vu de leur histoire, de leur sonorité, de leur voilà. Et puis au gré des fondeurs, en fait, on en apprend beaucoup sur comment elles ont été fondues pour quel édifice notamment. Et on a aussi des cloches, même certaines du 19e siècle, qui peuvent être classées parce que issues de fondeurs rares et à la sonorité singulière.
Comment on fait pour savoir ça ? Parce qu'il y a des inscriptions particulières sur les cloches ?
Tout à fait. En fait, les cloches portent toujours, ou du moins en grande majorité, le nom des parrains et marraines qui l'ont baptisé, le nom du fondeur, souvent au bas de la cloche, avec la date de fonte et le lieu de fonte. Et on a à côté, en tout cas pour les cloches religieuses, de belles décorations, souvent une finesse végétale que l'on trouve sur différentes parties de la cloche, le cerveau et le bas de la robe, et des effigies religieuses. On peut trouver souvent, par exemple, des effigies comme l'Assomption, la Vierge à l'Enfant ou la Crucifixion du Christ.
Est-ce qu'il arrive qu'on retrouve sur certaines cloches des événements historiques ? Par exemple, une cloche qui aurait été fondue pendant, je sais pas, une bêtise peut-être, la Première Guerre mondiale ou...
Tout à fait, on peut trouver ça parce que ça, c'est des événements marquants de l'histoire. Et on a eu des cloches fondues lors de guerres. Et plus récemment, on a eu, alors ça pouvait paraître choquant alors que ça fait partie de notre histoire, qu'on le veuille ou non, mais il y a une cloche qui avait été fondue récemment et qui, où l'on trouvait d'inscrit, j'ai été fondue lors de la Covid-19. Voilà.
Alors, on a encore un tout petit peu de temps, je vais vous poser une dernière question. Il y a beaucoup de pétitions qui circulent pour qu'on arrête de faire sonner les cloches dans certains villages. Alors, je peux comprendre que certaines cloches sont assez désagréables, elles peuvent être désagréables. D'ailleurs, pourquoi certaines cloches peuvent être désagréables ?
Alors, par leur niveau sonore ou leur intensité de sonnerie. Et il faut dire ce qui est vrai, en fait, même s'il y a une loi qui protège aujourd'hui les bruits de la campagne, les sons de notre patrimoine, hein, il y a toujours une ou deux personnes qui ne supportent pas le son des cloches ou autre et qui veut tout faire pour faire taire son et conforter son environnement sonore.
C'est quelque chose qui vous attriste ?
Alors, voilà, des fois, ça me semble assez curieux parce que, en général, quand on choisit un logement, on fait en sorte de vérifier l'environnement sonore pour être conforté et pour peut-être s'adapter entre guillemets. Mais après, c'est vrai que faire plaisir à tout le monde, c'est souvent dur.
D'accord. On n'aura pas le temps d'écouter un autre son. Merci beaucoup, Mathieu et Jules, d'être venus nous faire écouter tout ça.
Je vous en prie.